Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La rentrée est désormais derrière nous et les concerts se succèdent de nouveau à Toulouse et ailleurs dans notre région. La grosse actualité du moment étant bien sûr le festival Piano Jacobin, dont la 40e édition va occuper le terrain jusqu'à la fin du mois. Nous allons donc avoir beaucoup d'événements à commenter et à vous présenter dans les semaines qui viennent. Pour m'y aider, deux des invités permanents de cette émission, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À leur côté, un invité de marque encore auréolé de son titre de révélation soliste instrumentale de l'année aux dernières victoires de la musique classique. Vous aurez sans doute reconnu le jeune guitariste Thibaut Garcia, toulousain et fier de l'être. Mais plus que le musicien, c'est surtout le directeur artistique que nous recevons aujourd'hui à Mélomanie. En effet, Thibaut Garcia a fondé il y a un an avec ses parents la saison Toulouse Guitare. Et la programmation 19-20 vient tout juste d'être dévoilée, raison pour laquelle nous l'accueillons dans ce numéro. Nous allons nous y plonger tout à l'heure avec lui en seconde partie d'émission. Pour l'instant, nous allons d'abord nous intéresser à l'actualité musicale de la semaine passée. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
L'actualité de la semaine dernière et des semaines à venir, c'est donc le festival Piano Jacobin, dont nous recevions lors de notre numéro de rentrée l'un des deux fondateurs et directeurs artistiques, Paul-Arnaud Péjoin. Plusieurs concerts ont déjà eu lieu depuis l'ouverture de cette 40e édition, le 5 septembre. La qualité et le public étaient au rendez-vous, donc il va falloir qu'on dise un mot sur tous ces grands récitals. On va commencer par le début et par le concert de Christian Zacharias, un vieil habitué du cloître des Jacobins. Serge, vous avez assisté à cette soirée inaugurale donnée à guichet fermé comme on pouvait s'y attendre, et il semble que le grand pianiste allemand ait enchanté l'assistance une fois de plus.
Oui, une fois de plus, comme vous dites, hein, effectivement. Oui, il faut quand même préciser que Christian Zacharias a tissé des liens avec Toulouse en général, pas seulement Piano Jacobin, puisqu'il vient également diriger l'orchestre du Capitole tout en jouant. C'est ce qu'il a fait au cours d'un dernier concert dans un concerto de Mozart qu'il jouait au piano et qu'il dirigeait. Donc, bon, Christian Zacharias, c'est un maître, hein, on sait que c'est un grand pianiste. Et donc, il l'a démontré là avec un concert dont le programme était à la fois plein d'intelligence et de finesse. Pourquoi ? Parce qu'il s'est amusé, si l'on peut dire, dans ce concert, à faire un parallèle entre Joseph Haydn et Bach. C'est amusant a priori la comparaison. Et en fait, successivement, il a joué des sonates de Haydn, une suite française de Bach, la suite française numéro 5, et la partita numéro 3, et donc trois sonates de Haydn. Et tout ça mêlés donc l'un après l'autre. Alors il y avait une première partie dans laquelle il y avait vraiment des liens qui apparaissaient entre Haydn et Bach, et puis une deuxième partie où au contraire on a vu le contraste entre les deux, et ça c'était très bien vu, notamment elle débutait par la troisième partita de Bach, alors vraiment la musique de l'esprit, une musique magnifiquement architecturé, et à la suite, c'était la dernière sonate de Haydn, la sonate 62, la 62e en mi bémol majeur. On avait l'impression d'entendre du Beethoven jeune manière, hein, tout à fait. Et donc vraiment, le contraste a été formidable, très intéressant. Il a eu un succès extraordinaire et du coup, il est revenu pour un bis, évidemment, et il a dit qu'il allait jouer 12 bis, mais qu'il les concentrerait en un seul. Il a beaucoup d'esprit. Il s'agissait des 12 variations du jeune Beethoven.
Justement, alors, voilà.
Ça venait très bien après,
oui,
la dernière
sonate. Il avait préparé son coup, sans doute.
Ah oui, oui, il avait préparé, oui. Donc 12 variations que j'entendais pour ma part pour la première fois. C'est une œuvre, vous savez, les vers que Ono Opus, les W petit O grand O, là, de Beethoven, donc de sa jeunesse. Et c'était sur un air d'un compositeur tchèque qui s'appelle Paul Vranitsky. Je vous avoue que je ne connaissais pas ce monsieur. Et c'était sur un thème d'un de ses opéras qui s'appelle Das Waldmädchen, c'est-à-dire La fille de la forêt. Et donc, il a joué ces 12 variations avec beaucoup d'esprit. En quelque sorte, la boucle était bouclée avec le reste du programme. C'était vraiment très intelligemment mené, très intelligemment construit et magnifiquement joué, comme d'habitude, hein, avec Zacharias. Donc.
Et ça lançait idéalement donc, cette 40e édition si symbolique. Et dès le lendemain, un autre moment très attendu de cette 40e édition avait lieu, le concert d'Alexandre Kantorov, la nouvelle petite merveille du piano français qui en compte déjà beaucoup. Alexandre Kantorov que précède désormais sa réputation depuis son éclatante réussite au récent concours Tchaïkovski. Première fois qu'un musicien français a remporté la médaille d'or de cette compétition éminemment prestigieuse. Évidemment, là encore, on a refusé du monde pour ce concert, mais Serge, vous y étiez. Quel programme a joué le jeune pianiste français vendredi dernier ?
Alors, il faut dire quand même que, rappeler qu'Alexandre Kantorov est fils de musicien, hein, son père
musicien.
Notamment, les deux sont violonistes, son père et sa mère, et son père est également chef d'orchestre.
Fils donc, de Jean-Jacques Kantorov.
Oui, donc c'est vraiment une dynastie là, qui donne
qui
un
se
résultat
prolonge, et puis
formidable. Vraiment, c'était éblouissant, à tel point que je n'avais jamais vu une ovation debout à ce point enthousiaste dans la salle capitulaire du cloître des Jacobins. Alors là aussi, c'était un programme extrêmement bien construit. En fait, le cœur du programme, alors là c'est amusant parce qu'il y a des coïncidences, c'était la sonate numéro 2 opus 2 de Beethoven et la sonate numéro 2 opus 2 de Brahms.
Oui.
Donc deux sonates jumelles en quelque sorte, des jeunes Beethoven et Brahms. Et c'était encadré, d'une part, en entrée par deux pièces brillantissimes, notamment la Rhapsodie en si mineur de Brahms, et une des études d'exécution transcendante, la 12e de Liszt, qui est appelée le Chasse-Neige, et qui est une œuvre, mais d'une difficulté technique.
Oui.
On se demande comment
on peut
la jouer, c'est quand même incroyable. Et il a joué ça avec une aisance, une énergie, un engagement qui était tout à fait extraordinaire. Il a une sonorité formidable.
Oui, beaucoup musicalité
formidable,
aussi,
hein, d'orchestre par moment. C'est vraiment absolument magnifique. Donc, après ces deux sonates de Brahms et de Beethoven, eh bien, il terminait, alors, pour calmer un peu le jeu, avec le nocturne numéro 6 de Fauré. Et donc là, on retrouvait un peu de sérénité après l'excitation de tout ce qui précédait. Et donc, ça a été vraiment une chose tout à fait incroyable, avec de la poésie, parce que, alors, il a une puissance sonore qui est tout à fait extraordinaire, mais il est capable d'une douceur tout à fait angélique, hein, donc, ce qu'il faut. Hein. Donc, vraiment, une soirée formidable, avec le défi technique, quand même, que représente cette pièce de Liszt, Chasse-Neige. C'est à on se demande comment cela peut être joué par des mains normales. C'est tout à fait incroyable. Alors, l'enthousiasme était tel qu'il a fallu qu'il revienne. Il est revenu pour deux bis. Alors, le premier bis, stupéfiant, c'était la version piano du final de L'Oiseau de Feu de Stravinsky. Et là, on avait l'impression qu'il avait un orchestre au bout des doigts. Mais vraiment un orchestre, hein. Des sonorités. On reconnaissait les instruments de l'orchestration de Stravinsky. Donc ça a été de nouveau du délire. Et puis il a quand même voulu calmer un peu le jeu. Il a joué une pièce qui s'appelle Méditation, qui est de Tchaïkovski. Et donc il finissait sur un certain apaisement. Donc on peut dire qu'Alexandre Kantorov est vraiment au début d'une carrière qui ne peut qu'être que brillante.
Il y en a un qui est bien placé pour nous parler d'Alexandre Kantorov ici, c'est Thibaut Garcia, parce qu'il a été... en quelque sorte son concurrent malheureux pour donc cette récompense de la révélation soliste instrumentale de l'année aux dernières victoires de la musique classique. Bon, depuis, c'est largement rattrapé en gagnant le concours Tchaïkovski. Qu'est-ce que vous pensez de ce musicien que vous avez côtoyé et que vous connaissez bien ?
Moi, je tiens à dire que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour Alexandre Kantorov. Bon, on est collègues, on fait des instruments différents, on joue sur des terrains différents. Mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer donc aux victoires de la musique, de l'écouter. Et c'est vraiment époustouflant. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait musicalement, techniquement, c'est une chose, c'est hallucinant. Mais on oublie la technique, il y a un moment où on oublie tout ça, et comme le disait Serge, il y a de la douceur, il y a une énergie complètement folle, il y a un orchestre au bout des doigts, et moi je suis complètement fan en fait de mon ami Alexandre Kantorov.
Oui, que vous aurez sans doute l'occasion de recroiser, pas seulement à l'occasion de cérémonies de récompenses comme les victoires de la musique classique.
Oui, et puis je dois dire qu'il a une activité débordante. Le lendemain soir, il donnait un autre récital à Saint-Pétersbourg avec un autre programme. Donc, bon.
Oui, bah je pense qu'après
bonne
avoir gagné
santé
le concours,
à Alexandre Kantorov.
Oui, le concours Tchaïkovski doit être très, très demandé, comme à chaque fois qu'on reçoit une récompense comme ça. Alors là, vraiment international pour le coup. On va écouter quand même maintenant Alexandre Kantorov dans ses œuvres, précisément dans une interprétation d'une des pièces qu'il a jouées vendredi dernier au cloître des Jacobins, la Rhapsodie opus 79 numéro 1 de Johannes Brahms. La Rhapsody opus 79 numéro 1 de Johannes Brahms, jouée par Alexandre Kantorov, une des œuvres qu'il a interprétées vendredi dernier au cloître des Jacobins. Le concert dont nous allons parler maintenant a été donné, lui, mardi, par un autre représentant de la nouvelle et brillante génération du pianiste européen, Martin James Bartlett. Il est britannique, il a un an de plus qu'Alexandre Kantorov et lui aussi s'est déjà fait une solide réputation avant de se produire pour la première fois à Toulouse. Il se trouve que vous le connaissez aussi, Thibaut Garcia, et que vous étiez, tout comme moi, présent à son concert mardi, très applaudi là encore par les spectateurs présents. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation et du programme qu'il a joué ?
Moi, je suis pas un spécialiste du piano. Il y avait beaucoup de pièces que je connaissais pas, donc j'ai trouvé ça déjà très intéressant de découvrir ces pièces et puis la façon dont il les a défendues. J'ai beaucoup aimé l'énergie aussi, c'est-à-dire quand c'était dans la douceur, il y avait vraiment une élasticité, la sonorité changeait, vraiment il y avait beaucoup plus de chaleur, d'épaisseur. Et puis après, quand il allait dans les fortés, c'était vraiment comme s'il martelait le piano. Et j'ai trouvé ça vraiment super.
Voilà, alors c'est un pianiste très expressif dans son jeu et dans sa personnalité, parce que alors, quand il joue, son visage s'exprime beaucoup, son corps s'anime, il a fini l'été en nage, donc il y va à fond, quoi. Il est vraiment là pour donner tout ce qu'il peut. Et puis, il avait bâti un programme très très original, comme on voit rarement. Je me suis d'ailleurs demandé si c'était pas aussi pour nous montrer toute l'étendue de son talent et de sa virtuosité, donc ce qu'il sait faire dans l'énergie, dans les nuances et dans la tendresse. Il a joué Arnold Bach's Burlesque, trois préludes de Rachmaninoff, il a joué Goyescas de Granados, il a joué une œuvre dont le titre est She Hears, qui est d'un certain, je pense ne pas me tromper, Julian Anderson, anglais, vivant, né en 67. Après, nous avons eu droit à du Ginastera, les danses argentines. Après, Toccata, sous-titré L'homme armé, de Marc-André Hamelin, québécois, lui aussi toujours vivant.
Compositeur d'aujourd'hui.
Voilà, compositeur bien d'aujourd'hui. Ensuite, nous avons eu The Woodland Sketch, d'un certain McDowell, prénom Edward, alors lui plus ancien, mort en 1908, américain je crois. Après nous avons eu Gershwin, The Man I Love, I Got Rhythm, son côté jazzy, alors là je peux vous dire justement le rythme, il nous l'a mis comme il fallait. Et puis ensuite il y avait une 7 études virtuoses d'un certain Earl Wilde, encore un américain, mort il y a quelques années, en 2010. Après, il y a eu la sonate en mi bémol mineur de Samuel Barber. Et puis, on a eu deux bis. Donc, il y a eu la première sonate de Prokofiev, le troisième mouvement. Et les Kinderszenen, le premier mouvement des Kinderszenen de Robert Schumann. Alors, vous voyez, c'était vraiment très étendu. Il nous a montré tout ce qu'il savait faire. Et Dieu sait que tout ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Alors, on va l'écouter, Martin James Bartlett. Il y avait entre autres du Gershwin, donc comme je vous l'ai dit, dans ce programme, mardi. Et on va écouter maintenant une des pièces que tout le monde connaît du compositeur américain, le célèbre I've Got Rhythm. Et oui, il a le rythme, le bon rythme, Martin James Bartlett, dans cette interprétation du fameux standard I've Got Rhythm de George Gershwin, une des pièces qu'il a jouées mardi au cloître des Jacobins, un lieu où on le reverra, n'ont pas douté, dans les années qui viennent. Dernier concert de piano aux Jacobins sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, celui de Nelson Gurner mercredi. Vous faisiez partie des heureux spectateurs présents cette soirée, Serge. Le pianiste argentin vous a-t-il régalé avec un programme où l'on trouvait du Chopin, du Fauré et du Paderewski?
Exactement. C'est un pianiste là aussi qui est venu assez souvent à Toulouse, hein. Et c'est un pianiste argentin, et c'est important de dire argentin, parce que je crois qu'il y a une spécificité du piano argentin. Si on entend encore de nos jours Martha Argerich, avec cette espèce d'énergie incroyable qu'elle développe, eh bien, Nelson Gurner est un peu dans cette tradition.
Digne représentant de cette école argentine.
Voilà, belle tradition. Et là aussi, il avait conçu, décidément, cette 40e édition, c'est le cas. Il avait conçu un programme, qu'il a modifié d'ailleurs, récemment, mais un programme d'une grande cohérence, d'une grande intelligence. En fait, il ouvrait et fermait son programme avec Chopin. Et entre les deux, deux séries de variations. Donc, ça ressemble un peu au programme d'Alexandre Kantorov. Hein. Donc, il y avait vraiment des choses très intelligemment menées. Le concert s'ouvrait par deux nocturnes, avec cette espèce de désespoir qu'il y a quelquefois chez Chopin,
oui,
et puis
oui,
d'énergie tout d'un coup,
oui, oui,
d'éclatement. Alors, il fait ça de manière magnifique, hein, à tel point qu'il y a une rondeur du son, une beauté simplement sonore qui est vraiment splendide. Et puis, il a joué une pièce que j'avoue, je découvrais, de Paderewski. Alors, Ignace Paderewski, c'est cet homme politique, il a été président de Pologne, hein. C'est donc un homme politique et un grand pianiste. Les quelques enregistrements qui existent de lui montrent un pianiste avec une virtuosité incroyable, une technique stupéfiante. Et ça s'entend dans ses œuvres, notamment ses 20 variations et fugues en mi bémol mineur que Nelson Gurner a joué au cœur de son programme. C'est de la folie, c'est du délire. Comme il y avait une émission sur France Musique à une époque qui s'appelait Le délire des doigts, et ben là on y est en plein. Hein. C'est vraiment, c'est démoniaque. On se demande comment Paderewski a pu concevoir et demander à des pianistes de jouer. C'était incroyable, incroyable. Et il a fait ça à la fois avec panache et musicalité, sans en rajouter sur le côté technique, mais parfaitement organisé. Donc c'était fantastique. Et puis alors, très différente, hein, les variations de Gabriel Fauré, thème et variation en do dièse mineur, mais quand même avec une espèce d'énergie qui sous-tend toute l'œuvre, magnifique, et poésie, c'est un thème de marche qui est vraiment magnifique et qui montre un peu comment Fauré avait cette science du contrepoint à son époque, hein, extraordinaire. Donc magnifique, et donc il terminait par deux pièces emblématiques de Chopin, la Barcarolle en fa dièse majeur et le fameux Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante. Alors là, il s'est lâché complètement et c'était fantastique. Vraiment, du grand, grand Chopin par un grand, grand pianiste, on peut dire. Magnifique.
Et du grand piano romantique.
Hein. Ah, ou du grand piano romantique. Et il ne s'est pas arrêté là, puisque le succès était tel. Là aussi, les gens se sont levés pour l'applaudir et le succès a été tel qu'il est venu rejouer 3 bis cette fois, avec le premier un bis de son compatriote Carlos Guastavino, qui est une pièce intitulée Bailecito, le petit bal, donc très original avec ses sonorités particulières. Et puis alors là encore un autre délire, une pièce qui s'appelle Arabesque sur un thème du Beau Danube Bleu. Alors on reconnaît le Beau Danube Bleu de Johann Strauss, mais c'est passé à la moulinette, on pourrait dire, par un certain Adolf Schulz-Evler, que je ne connaissais absolument pas, un compositeur pianiste polonais, qui a fait de cette œuvre-là une explosion technique. Excusez-moi de me citer, mais j'ai écrit qu'on s'étonne presque que l'interprète ne soit pas obligé en même temps de pratiquer un saut périlleux arrière en même temps qu'il joue. Parce que c'est là encore plus que ce qu'il a joué.
Vous avez drôle d'idées, Serge.
Ah non, oui, j'ai de drôles d'idées, mais ça évoque ça. Hein. Non, c'est incroyable. Enfin, là, lui aussi a voulu calmer un peu le jeu en terminant avec son troisième bis, qui était un nocturne, de nouveau de Paderewski. Donc, voilà, idéal pour
atterrissage en douceur.
Voilà, en douceur.
Terminer la soirée, dire
avant le sommeil
à ce public qui avait sans doute encore envie de le retenir.
Oui.
Eh bien, pour illustrer ce que vous venez de dire de Nelson Gurner, Serge, voici une version du très beau Nocturne opus 48 numéro 1 de Frédéric Chopin, interprété par le pianiste argentin. Thank you. Le Nocturne, opus 48, numéro 1 posthume de Chopin, version de Nelson Gerner, avec qui nous refermons ce long chapitre consacré au premier concert de piano jacobin, dont la programmation se prolonge jusqu'au 30 septembre, je le rappelle une nouvelle fois. Avant de conclure cette première partie d'émission, peut-être un petit mot sur le récent 52e concours international de chant de Toulouse. La finale a eu lieu samedi dernier, sur la scène du Théâtre du Capitole, bien sûr. Vous y avez assisté, Anne-Marie. Alors, qui est l'heureux gagnant de cette édition et quelle est votre impression générale sur les concurrents que vous avez entendus ?
L'heureux gagnant de cette 52e édition, puisque le concours a une belle ancienneté et qu'il suscite toujours d'ailleurs la passion du public, bien qu'aujourd'hui le règlement a changé, c'est beaucoup plus décontracté, on peut applaudir les candidats, les gens peuvent se manifester, donc c'est beaucoup plus décontracté. Et surtout le règlement a enlevé la mélodie ou le lead qui était exigé en première partie. Cette fois-ci, les candidats ont deux airs d'opéra à chanter, un que le jury a choisi pour eux et un second que eux-mêmes choisissent. Et ils sont donc jugés sur ces deux airs d'opéra. Donc c'est l'opéra qui est mis en valeur et pas d'autres formes de chant mélodique, etc. Donc cette année, il y a eu de belles révélations parce que surtout des chanteurs qui sont pour la plupart des gens qui, plus que de chercher la performance vocale, cherchent déjà à interpréter, font preuve d'émotion, de sensibilité. C'est le cas du premier prix, qui est un Vénézuélien, un jeune ténor vénézuélien qui a un nom assez difficile à retenir. Peut-être que quand il fera carrière, il faudra qu'il le raccourcisse. Il s'appelle Andrés Esteban Sulbaran Sicata ou Jicata. Le nom est assez compliqué.
Mais il faudra qu'il se fasse un nom.
Oui, je pense qu'il faudra qu'il se fasse un nom. Mais ce garçon a déjà aussi, oui, c'est vrai, un sens de la mélodie, du style. Il a chanté le très bel air de Lenski de Eugène Onéguine, Kouda, Kouda, qui est magnifique, avec une ligne contrôlée, de l'émotion, une belle diction. Et je crois qu'il a bien mérité le premier prix. Il n'y a pas eu de premier prix chez les voix de femmes. Peut-être peut-on le regretter, mais il y a eu un deuxième prix qui est allé à une mezzo-soprano, puisque les mezzo-soprano étaient en force cette année, oui, étant donné que la présidente du jury était Béatrice Uriamonzon, elle est sensible sans doute aux voix de mezzo-soprano, mais je crois qu'il n'y a pas qu'elle, parce que c'est vrai que les voix de mezzo dominaient largement la compétition, et ce deuxième prix s'appelle Lotte Verstraeten, et elle est belge. Elle a chanté, elle, un extrait de La Chauve-souris de Johann Strauss. Elle avait chanté aussi un extrait de Toujours de Eugène Onéguine de Tchaïkovski.
Bon, ben nous allons féliciter Lotte. Et puis après
Il y a eu après des troisièmes prix qui méritent tous de faire carrière, je pense, puisqu'ils ont tous au moins des qualités, surtout d'interprète et aussi musicales. À partir de là, je crois qu'ils peuvent espérer faire une carrière. Aujourd'hui, on est tout de même à l'opéra, très sensible. Pas qu'à la performance vocale, mais surtout aussi au tempérament scénique et aussi à la musicalité de ce qu'on peut chanter.
Alors, moi j'ai eu un petit commentaire de notre ami Robert Pénavert, qui n'a pas pu être aujourd'hui présent dans ce studio, mais qui lui a trouvé que le niveau général du concours n'était pas terrible, était assez réservé. Alors, je ne sais pas si c'est votre avis.
Non, dans la mesure où il n'y avait pas de... Enfin, ce qui a changé, c'est qu'on n'a pas entendu les gens. Moi, je n'ai pas entendu les sélections ni la demi-finale. Donc, tous ceux qui ont été sélectionnés pour la finale, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas de voix qui font trembler la salle. Mais en même temps, je crois qu'il n'y avait pas parmi eux de gens qui ont des problèmes, qui s'entendaient, des problèmes, c'est vrai parfois, d'attraper une note, des problèmes de ligne de chant, et que tout ça était assez homogène. Et que je pense que parmi eux, c'est vrai que peut-être, si on cherchait une révélation précise, mais je crois qu'ils ont tous la possibilité de faire carrière dans la mesure où ils ont les qualités dont j'ai parlé au début.
Donc vous avez trouvé que c'était une belle édition.
Dans cet état d'esprit, oui, mais je veux dire, étant donné que les règles ont complètement changé, je crois que le public était content, puisqu'il n'y a pas eu de... À une époque, il y avait toujours des gens qui protestaient par rapport au verdict du jury. Là, tout le monde était ravi.
Il y avait une certaine unanimité.
Il y avait unanimité, et puis le public...
Le chanteur récompensé.
Oui.
Très bien, nous terminons donc cette première partie d'émission là-dessus. Quelques secondes de pause avant de retrouver notre invité d'honneur Thibaut Garcia et d'évoquer avec lui la programmation de la deuxième saison de Toulouse Guitare. Restez bien à notre écoute, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda est la seconde partie de ce numéro de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et en compagnie de notre invité d'honneur, le guitariste Thibaut Garcia, qui est également le directeur artistique de Toulouse Guitare. La saison de concert qu'il a lancée l'année dernière avec ses parents, la programmation de la deuxième vient tout juste d'être dévoilée, et nous allons en parler bien sûr avec vous, Thibaut. Bon, je voudrais d'abord prendre un peu de vos nouvelles parce que j'ai l'impression que le cours de votre carrière s'est encore accéléré depuis ce fameux soir de février dernier. Vous avez été désigné révélation soliste instrumentale de l'année aux Victoires de la musique classique. Alors qu'est-ce qui a changé pour vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de demandes de concerts, j'imagine, entre autres ?
Bon, écoutez, déjà tout va bien, vous prenez mes nouvelles, tout va très très bien. Oui, c'est vrai que c'est particulier, les Victoires de la musique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis je me suis retrouvé dans la même catégorie, on en parlait tout à l'heure d'Alexandre Kantorov, Théo Fouchéneré, qui sont des artistes incroyables. J'ai eu cette chance-là, voilà, d'être nommé Révélation cette année. Et oui, ça change un petit peu les choses. Ça change, bien sûr, les propositions de concerts en France. Il faut dire que c'est quelque chose de très français. À l'étranger, oui. Ils ne connaissent pas les Victoires de la musique. Mais en France, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, les propositions de concerts. Et puis, le regard des gens, on sent que de suite, il y a plus de gens qui s'intéressent à la guitare classique, aux concerts. Je l'ai vu cet été, par exemple. J'avais l'impression d'avoir plus de gens qui venaient aux concerts tout l'été en France. Donc, je suis vraiment heureux de tout ça.
Et puis, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait plus de propositions d'enregistrement venant d'abord de votre label, hein, de Warner Classic et Rato Warner Classic, comme tout récemment, c'était ces derniers jours, à la Lograin. Qu'est-ce que vous avez enregistré avec notre orchestre du Capitole, Thibaut ?
Ben, j'ai enregistré le Concerto d'Aranjuez de Rodrigo, le fameux Concerto d'Aranjuez, et un concerto qui n'a jamais été enregistré, c'est le concerto musique de cour de Alexandre Tansman. Et je suis vraiment heureux de l'avoir enregistré avec l'Orchestre du Capitole, parce que pour un Toulousain d'enregistrer à la Lograin avec l'Orchestre du Capitole, c'est quand même quelque chose.
Oui, donc il y a à la fois un tube, le concerto d'Aranjuez, oui. Et puis
une nouveauté.
Voilà, une nouveauté, en tout cas une œuvre un peu oubliée, hein, sans doute très très peu connue du grand public. Des guitaristes sans doute.
Les guitaristes ne connaissent pas du tout.
Même
non,
les guitaristes
ne
connaissent pas, vous rendez compte.
C'est là en fait où je trouvais ça vraiment intéressant, c'est que c'est une découverte pour tout le monde. Il y a très très peu de guitaristes qui le connaissent parce que j'ai mon ami Frédéric Zigant qui est un grand érudit, connaît énormément de choses sur la guitare, il a des correspondances entre Tansman, Segovia et c'est lui qui m'a fait découvrir ce manuscrit, cette partition-là qu'on va ressortir voilà, au grand jour.
Qui date de quelle époque, Tansman ?
Tansman, c'est 20e. Tansman, il a composé au milieu du 20e siècle.
Fin de la première moitié du 20e siècle. Eh bien, on en arrive à cette deuxième saison de Toulouse Guitare, dont la programmation vient d'être révélée au public. Et s'il y en a une deuxième, on peut penser que la première a été une réussite. Moi, j'ai assisté aux 4 concerts de la saison 2018-2019. J'ai eu à chaque fois des salles remplies ou quasi remplies. Un public enthousiaste. Alors, quel bilan vous en tirez, vous, le directeur artistique ?
On est très heureux, c'est un super bilan pour une première année. Déjà, nous, on ne savait pas à quoi s'attendre, c'est-à-dire qu'on allait partager cette saison guitaristique avec le public toulousain pour la première fois, donc grosse surprise. Comme vous le disiez, des salles pleines ou quasi pleines à chaque concert. Et c'était super, un public vraiment réceptif. Et puis, j'étais vraiment content de la programmation qu'on a eue, de l'énergie de tous les artistes. Donc le retour du public c'est important, mais le retour des artistes aussi, et ils ont tous été très heureux du public toulousain.
Oui, parce qu'en plus c'était dans des salles différentes à chaque fois, donc vous avez testé plusieurs acoustiques du coup.
Voilà.
Et puis, alors Serge, vous pouvez en témoigner, ça a été très varié ce que vous nous avez proposé.
Absolument.
Mais à chaque fois vraiment d'une qualité extraordinaire.
Oui, oui, d'une qualité parfaite, et en plus avec une idée formidable d'associer au sein d'un même concert deux guitaristes, l'un la vedette, et en introduction un jeune guitariste qui débute, et ça c'est formidable. L'idée était extraordinaire.
Qui débutent, ce sont déjà des guitaristes qui ont déjà un parcours.
Oui, mais qui n'ont pas la réputation du guitariste qui leur succède. Chaque fois, il y avait une espèce de dualité, un dialogue entre les générations, en quelque sorte. Mais et c'est ça qui est formidable.
Ça fait partie de nos valeurs, et c'est quelque chose que je voulais, en tout cas personnellement, vraiment réaliser. Parce que moi, on m'aurait promis, il y a une dizaine d'années, quand j'étais étudiant au conservatoire, ou juste après avoir obtenu mon prix, on m'aurait promis de faire la première partie d'un grand concertiste international, mais j'aurais été complètement fou, ça aurait été un rêve. Et du coup, le fait de le proposer à ces étudiants qui le méritent et qui nous font des belles premières parties, c'est génial.
Alors, ce que j'ai remarqué aussi, vous l'avez peut-être vu, Serge, le public, c'est un public différent de celui de la musique classique telle qu'on voit ailleurs, qui est plus jeune déjà.
Plus jeune, nettement plus jeune.
Souvent familial, souvent des gens venir en famille. Oui. C'est-à-dire qu'on vient voir jouer ou le copain qui est en première partie. Il y a ses frères, ses sœurs, ses parents, parfois ses grands-parents. Et ça donne un côté, je trouve, extrêmement sympathique.
Tout à fait, vraiment, c'est familial. Et il y a une espèce de ferveur du public vis-à-vis du programme qui est défendu là.
Alors, je suppose aussi, Thibaut, que pour faire venir tous ces magnifiques musiciens qu'on voit donc en seconde partie, l'essor de votre carrière doit sans doute y aider beaucoup, parce que ce sont des gens maintenant que vous côtoyez et qui vous connaissent.
Oui, j'ai la chance de pouvoir les rencontrer dans des festivals ou dans des saisons, et du coup de les rencontrer, d'avoir le contact direct, et de me dire, tiens, c'est maintenant quand je vais écouter un concert, c'est assez rigolo, j'y vais en tant que public, mais j'ai toujours le directeur artistique et qui trotte un petit peu, et qui me dit, mais tiens, ce concert c'est incroyable, on va l'avoir à Toulouse Guitare, donc c'est assez marrant.
Programmation saison 19-20, on en parle tout de suite. Elle débute d'ailleurs très prochainement, puisque ce sera le vendredi 4 octobre à 20h à la Chapelle des Carmélites, avec le concert d'un très grand musicien qu'on connaît à Toulouse, luthiste, théorbiste et guitariste classique. Je vais vous laisser le soin de révéler son nom et de nous présenter cette grande figure de la guitare et de la musique baroque.
Notre premier concert, c'est Rolf Lislevand, donc avec un concert guitare baroque, théorbe et luth, à la Chapelle des Carmélites, un lieu qui s'y prête parfaitement, qui est, en tout cas pour ma part, un de mes lieux préférés à Toulouse. Je suis vraiment tombé amoureux de la Chapelle des Carmélites. Et d'avoir Rolf Lislevand, on va avoir un concert baroque pour Toulouse Guitare, premier concert, le 4 octobre. Et il va nous jouer du Kapsberger, du Santiago de Murcia, du Piccinini, donc ça va être très varié. Moi j'aime bien Rolf Lislevand, je l'appelle le baroqueur, parce que c'est un rocker en fait, c'est un musicien baroque et un rocker.
Scandinave comme son nom l'indique, norvégien, que vous le connaissez vous Serge Chausset, parce qu'il joue avec les Sacs-Boutiers.
Il joue avec les Sacs-Boutiers, avec les ensembles de Jordi Savall,
Experience 21.
C'est vraiment un grand musicien.
Alors il faut savoir pour ceux qui s'intéressent au cinéma que Rolf Lislevand avait participé à l'enregistrement de la musique du film Tous les matins du monde, avec Jordi Savall, et puis qu'il a créé, on parlait de Johannes Kapsberger, il a créé un ensemble qui s'appelle l'ensemble Kapsberger, c'est dire qu'il apprécie beaucoup ce compositeur. C'est vraiment un des grands maîtres actuels de la guitare baroque, enfin actuel et même maintenant, depuis quelques décennies.
Oui, il est vraiment réputé. Il est vraiment réputé. Moi, je l'ai entendu une fois à Paris. Alors, pour vous dire, c'est assez marrant cette anecdote, c'est le plus beau décrescendo que j'ai entendu de toute ma vie. C'est-à-dire que le son s'éteignait petit à petit et disparaissait. On ne savait plus si on était dans la réalité ou le rêve, c'était magnifique.
Rolf Lislevand, je vous le disais, a fondé l'ensemble Kapsberger. Il est un grand spécialiste de la musique de ce compositeur italien d'origine allemande, comme son nom le trahit. Voici donc une passacaglia, une passacaille de Kapsberger, interprétée par Rolf Lislevand. Passacaglia, pièce de Johannes Hieronymus Kapsberger, interprétée par Rolf Lislevand. Le grand musicien norvégien ouvre donc la saison 19-20 de Toulouse Guitare à la Chapelle des Carmélites, vendredi 4 octobre à 20h. Le rendez-vous suivant est programmé vendredi 13 décembre, toujours à 20h, mais à la salle du Sénéchal. Et là, vous avez invité un trio pour un événement bien particulier, puisqu'il s'agit d'un ciné-concert. Alors là, vous innovez encore. Qui sont ces trois musiciens? Et surtout, peut-être, quel film vont-ils accompagner? Parce que c'est un très, très grand film.
Alors, les musiciens, il s'agit des Frères Méduse. C'est duo de guitare Frères Méduse, Benoît Albert et Randall Evers, américains. Benoît Albert, qui est professeur au Conservatoire de Toulouse.
Grand enseignant hein, qui a formé, qui continue de former beaucoup de guitaristes à Toulouse.
Exactement, et puis qui tourne pas mal aussi, notamment avec son duo. Et il s'associe à la violoniste Jennifer Choi, violoniste américaine. D'ailleurs, ils ont beaucoup tourné aux États-Unis. C'est la première fois qu'ils vont faire ce ciné-concert en France. Et ils vont nous faire la musique en direct, la musique du film L'Inconnu de Todd Browning.
Oui, alors c'est un film de 1928, alors je peux en parler parce que je l'ai vu, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu ce film, film extraordinaire. Alors Todd Browning, c'est le cinéaste qui a réalisé Freaks, chef-d'œuvre du cinéma. Et dans le film The Unknown, ça c'est le titre américain, L'Inconnu, l'acteur principal c'est Lon Chaney, qui est un des grands acteurs de l'époque du muet, aux États-Unis, même dans le monde entier, enfin un acteur qui avait un jeu, on parlait de jeu expressif tout à l'heure, lui, vraiment, c'est exactement ça, c'est un film extraordinaire avec un acteur hors norme, avec une histoire aussi. Todd Browning, pour ceux qui ont vu Freaks, savent qu'il s'intéressait beaucoup aux êtres en marge, aux êtres différents. Bon, là, je peux pas dévoiler l'histoire parce qu'il vaut mieux aller le voir. Et alors, dessiner concert, pour eux, c'est pas une nouveauté, c'est vraiment une habitude pour eux d'accompagner des films. Comment ça se passe? Est-ce que c'est totalement improvisé ou est-ce que c'est préparé?
Alors ça, on le verra bien, mais en tout cas, ce sont des grands improvisateurs. Du coup, je pense qu'il y a pas mal d'impro dans leurs concerts. Moi, je les ai déjà entendus improviser en duo et on va pas manquer ça.
Certainement pas, alors en tout cas ça vaut le coup d'y aller pour le film et pour les musiciens. J'ai un tout petit extrait d'un accompagnement de film muet par les frères Méduse justement, je vais vous le faire écouter. Ça va vous donner une idée de ce que pourraient faire le 13 décembre ces trois musiciens lors de la projection de L'Inconnu de Todd Browning. Petit extrait d'une musique des frères Méduse jouée lors de la projection d'un film muet. Ils vont donc accompagner avec la violoniste Jennifer Choi le film L'Inconnu de Todd Browning vendredi 13 décembre à 20h à la salle du Sénéchal. Et concert suivant, vendredi 31 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines cette fois-ci. Et là, c'est un duo de guitaristes qui va se produire. Un duo qui porte un nom en forme d'oxymore, Thibaut.
Ben oui, c'est le solo duo. Alors solo duo, pourquoi? Parce que ce sont deux solistes qui ont une carrière de soliste, chacun de leur côté, et qui forment aussi un vrai duo depuis pas mal de temps, donc ben, tout simplement solo duo. Un duo italien, c'est Lorenzo Michelli et Matteo Mela qui vont nous proposer notamment leur projet de dernier disque Beethoven for Two, donc Beethoven pour deux guitares, avec la célèbre sonate au clair de lune de Beethoven.
Voilà, donc ce sera essentiellement des transcriptions d'œuvres de Beethoven pour deux guitares, c'est ça?
Voilà, alors il n'y aura pas que du Beethoven, ce sera central, mais il y aura aussi du Bach, du Piazzolla et du Janacek.
Ça va être encore quelque chose de très varié. Vous les connaissez bien, ces deux musiciens? C'est-à-dire, vous les avez vus jouer en solo et en duo?
Mais je les ai vus en solo et en duo, puis j'ai fait des festivals avec eux. Lorenzo, j'ai aussi pris des cours il y a quelques années avec lui. Ces deux musiciens incroyables et surtout très réputés dans le milieu de la guitare aujourd'hui. Lorenzo Michelli, par exemple, qui est professeur à Lugano. Il y a beaucoup d'étudiants qui partent étudier avec lui là-bas.
Donc ce sont aussi, si je comprends bien, des maîtres pour beaucoup de jeunes guitaristes actuels. La particularité de ce concert, c'est qu'il va avoir lieu à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ça sera une première pour Toulouse Guitare.
Exactement. C'est la première fois qu'on a Saint-Pierre-des-Cuisines. Bon, c'est quand même symbolique à Toulouse d'organiser un concert à Saint-Pierre-des-Cuisines. Moi, je ne sais pas combien de fois j'y ai joué. Ça me fait plaisir d'aller écouter un autre concert de guitare.
Beaucoup de musiciens à Toulouse, pas seulement les musiciens, aussi les spectateurs, adorent ce lieu. Est-ce qu'il a une acoustique particulière?
C'est un très beau lieu avec une très très belle acoustique. Pour la guitare, c'est très beau, c'est très volumineux, il faut faire attention à ça.
Et oui.
Parce que c'est quand même grand comme lieu. Donc ici, il faut diffuser un peu le son avec une toute petite amplification, on le fera. Mais en tout cas, la nature du son est très belle parce qu'il y a beaucoup de bois et avec la pierre, ça fait un beau mélange.
Pour vous faire découvrir le solo duo en action, j'ai choisi de vous faire écouter la transcription pour deux guitares qu'ils ont faite aussi d'un clair de lune. Alors, c'est pas la sonate au clair de lune de Beethoven, c'est le clair de lune de Claude Debussy. Vous allez voir, c'est superbe. Mmh. Clair de lune, la transcription pour deux guitares de la pièce de Claude Debussy jouée par le solo duo qui sera en concert vendredi 31 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous nous projetons maintenant au début du printemps prochain, samedi 21 mars à 20h à la salle du Sénéchal pour le concert d'un autre duo formé par Antoine Morinière et Joachim Maudet. Mais là, il ne s'agit pas d'un duo de deux guitaristes, il s'agit d'un duo entre un guitariste et...
Et un danseur. Et oui, guitare et danse, je trouve ça intéressant d'explorer des mondes comme ça entre les différents arts. Et voilà, Antoine Morinière, c'est lui qui est à l'origine de ce projet de création, parce que c'est un projet qui est complètement nouveau. Il a été créé il y a à peine quelques semaines à Vienne, pour la première fois. Donc on va avoir le droit à une des premières représentations du projet nocturne guitare et danse.
Antoine Morinière, vous le connaissez très bien parce que vous jouez avec lui.
Ah oui, je le connais très très bien. C'est mon duettiste depuis, ça fait maintenant 10 ans qu'on joue ensemble. Donc je peux vous dire que je connais le bonhomme et je sais que ça va être superbe.
Et donc vous allez danser avec lui ce soir-là, Thibaut ?
Oui, bien sûr. Mais non, c'est pas moi qui danse, c'est Joachim Maudet, qui est un danseur extraordinaire, qui danse dans des super compagnies françaises et aussi, ils font des tournées internationales. Donc ça va être très beau, ça va être nouveau. Et j'encourage vraiment les gens à y aller parce que je pense que ça va être une découverte pour tout le monde, absolument tout le monde.
Alors ça montre encore, on l'avait vu la saison dernière, mais cette année c'est vraiment encore très très varié et c'est des projets vraiment originaux, le terme n'est pas usurpé. Hein.
Mais vous savez, moi ce qui m'intéresse c'est de concevoir une saison artistique comme un grand chef, par exemple étoilé, concevrait un menu gastronomique. C'est-à-dire que quand vous allez dans un super restaurant, vous savez pas toujours ce que vous allez manger, mais par contre ce que vous savez c'est que ça va être bon.
Voilà.
Et moi c'est ça qui m'intéresse, vraiment.
Allez, petit aperçu de la musique d'Antoine Morinière, votre duettiste comme vous l'appelez, avec cet extrait bien justement de cette œuvre nocturne, pièce de sa composition. Extrait de Nocturne, joué par Antoine Morinière. Alors, je voulais préciser que Nocturne, en fait, donc c'est le nom du programme.
Exactement.
Mais il y a plusieurs compositeurs qui sont intégrés dans l'ensemble de ce programme. Alors, ce que nous venons d'entendre, c'est du Britten, donc.
En fait, c'est une pièce d'Howland dans le Nocturnal de Britten.
Histoire de compliquer un peu plus les
voilà.
choses.
Mais il y aura du Bach, du Britten et du Raphaël Sévère.
Voilà, donc là on a la totalité des compositeurs que vous pourrez entendre lors de ce concert duo, guitare et danse, samedi 21 mars à 20h à la salle du Sénéchal. Le dernier concert de la saison, ce sera le cinquième, il y en a cinq, l'an dernier il y en avait quatre, donc il y en a un de plus pour la saison 19-20. Ce sera vendredi 15 mai à 20h à la chapelle des Carmélites. On termine la saison où on l'a commencé, la boucle est bouclée, et je vois déjà les amateurs de tango se précipiter pour réserver leur place, puisque vous avez invité pour cette ultime soirée un certain Roberto Aucel.
Roberto Aucel, qui est un maître de la guitare classique, de la guitare argentine. Et c'est vrai que dans l'association, on était plusieurs à rêver un jour d'écouter Roberto Aucel en live. Et on a la chance de pouvoir programmer nos concerts. Et du coup, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on réaliserait pas ce rêve qui est le nôtre, mais qui est celui de beaucoup de gens, je crois, ici à Toulouse.
Alors, il faut préciser, Roberto Aucel est bien né à Buenos Aires, il y a 65 ans maintenant, mais il vit en France depuis longtemps.
Oui, il vit en France, il vit vers Nantes ou Rennes, je ne sais plus exactement.
Oui, je crois qu'il est dans ce coin-là, en tout cas,
voilà.
Bretagne ou quasi-Bretagne, je vais me faire taper dessus, les Bretons de Nantes, comme ça. Bon. Et puis, je pense que les spécialistes le savent, en 81, Astor Piazzolla avait écrit pour lui, il lui avait même dédié ses célèbres 5 pièces pour guitare, la première composition qu'il avait faite pour cet instrument. Et bien, pour le plaisir, nous allons écouter une pièce extraite du CD Tango et Milonga, enregistrée par Roberto Ossel, une pièce intitulée Tango Barocco numéro 3. Tango Barocco numéro 3, un petit bijou extrait du CD Tango et Milongas de Roberto Ossel, le grand guitariste franco-argentin, donnera, je dis franco-argentin, je ne sais pas, je pense qu'il a la nationalité française à vérifier, il donnera donc le dernier concert de la saison 19-20 de Toulouse Guitar, vendredi 15 mai à 20h, à la superbe chapelle des Carmélites. Alors Thibaut, est-ce qu'on peut réserver dès maintenant ?
Ben oui, vous pouvez réserver dès maintenant sur le site de Toulouse Guitar, toulouseguitar.fr, et puis il y a encore de disponible le pass 5 concerts, l'abonnement à la saison. Pour pas en rater une miette, si je peux dire.
Bah oui, je pense qu'il faudra aller à tous parce que, comme je le dis, c'est très varié. Donc vous ne verrez, vous n'entendrez jamais la même chose. Et à chaque fois, ce sont de super musiciens qui vont se produire. Il reste quelques instants, donc je vais donner la parole à Serge Chosy pour annoncer le premier concert de la saison de l'Orchestre National du Capitole qui fait sa rentrée à la Lograin ce samedi 14 septembre à 20h avec un pianiste soliste, encore un. Excellent, comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle Behzod Abdurahimov, je ne garantis pas la prononciation, mais il est ouzbek en fait. Hein. Donc il est déjà venu à Toulouse, hein. Il a déjà joué en soliste avec Tugan Sokiev, et ce sera le cas donc pour le concert du 14. Et donc il jouera, alors là, un must du piano romantique russe, le concerto numéro 2, de Rachmaninov, donc là, on ne peut pas rêver.
Une merveille.
Plus beau dans ce répertoire. Et puis, donc, en deuxième partie, en complément de programme, on peut dire, mais en complément de luxe, hein, Tugan Sokiev dirigera des extraits des suites numéro 1 et numéro 2 pour orchestre du ballet Roméo et Juliette de Sergei Prokofiev. Donc, un concert de musique russe, mais vraiment de la grande musique russe romantique, donc deux des grands compositeurs russes.
De la première moitié moitié du XXe siècle.
Première moitié du XXe siècle, disons, voilà.
Serge donc, les deux Serges, Rachmaninov et voilà, Prokofiev.
Voilà.
Et nous, on en a un autre, Serge Chosy, que je remercie encore d'avoir animé cette émission à mes côtés, comme je remercie Anne-Marie Chouchan. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie. Grand merci à Thibaut Garcia de l'avoir honoré de sa présence. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Thibaut, vous le savez, vous êtes toujours le bienvenu ici. Vous venez quand vous voulez. Je rappelle que Toulouse Guitare, la saison que vous organisez avec vos parents, que je salue au passage, commence le vendredi 4 octobre avec le concert de Rolf Lislevand à 20h à la Chapelle des Carmélites. Quatre autres concerts vont suivre jusqu'au 15 mai. Et pour avoir tout le détail de la programmation, acheter et réserver vos places, il faut vous connecter au site www.toulouseguitare.fr. Ce samedi 14 septembre à 20h à la Halle au Grain, c'est donc aussi le concert de rentrée de l'Orchestre National du Capitole, qui va d'abord accompagner le pianiste Bezot Abdouremov dans l'interprétation du concerto numéro 2 de Rachmaninov, on vient de le dire. Il y a ensuite au programme les suites numéro 1 et 2 du Roméo et Juliette de Prokofiev. Vous pouvez vous informer et réserver sur le site www.onct.toulouse.fr. Dans les jours qui viennent, le festival Piano Jacobin se poursuit avec notamment mardi, mercredi et jeudi prochain à 20h les concerts de Nicolas Angelich, David Frey et Adam Laloum. Renseignements et réservations sur le site www.pianojacobin.com. Et puisque nous parlons d'Adam Laloum, je rappelle qu'il est le directeur artistique des pages musicales de La Grâce dans l'Aude, dont la 5e édition se termine ce dimanche 15 septembre. Le programme des derniers concerts est consultable sur le site www.festival-lagrasse.fr, où vous pourrez également acheter et réserver vos places. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles et profitez de cette semaine pour assister à tous ces beaux concerts.